Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La vague verte, non, ce n'est pas une nouvelle pandémie, mais bel et bien la vague écologique. À l'heure où le moral des Français est en berne pour cause de crises à tiroir, sanitaires, économiques et autres, la vague écologie semble être une bouffée d'air frais dans notre quotidien, une vague qu'il nous faut prendre, même quand cela ne nous est pas naturel, semble dire le pape François lui-même qui récemment a raconté son propre chemin de conversion sur le sujet. Une vague que prend l'Institut catholique de Toulouse qui, en cette rentrée, a décidé de se mettre aussi à l'heure de Laudato Si. L'ICT à l'heure de Laudato Si, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour nous en parler. Honneur aux dames, Marie-Christine Monnoyer, vous êtes professeure émérite de sciences de gestion, titulaire de la chaire Jean Rodin à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Adèle Solière, vous êtes étudiante en licence de langue étrangère appliquée à l'Institut catholique de Toulouse et vous êtes aussi étudiante à la Toulouse Business School. Bonjour.
Bonjour.
Donc pour ces dames, c'est fait, je m'y perdais. Christian Delarbe, vous êtes prêtre du diocèse d'Auch, enseignant en théologie et recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Oui, bonjour.
Et Alex Assouad, vous êtes étudiant en licence européenne de communication et d'information et co-créateur d'une association Récup Occitanie. Bonjour.
Bonjour.
On va donc parler de Laudato Si. Ça en fait des émissions là, depuis la rentrée sur ce thème. Preuve que c'est on cherche les bonnes nouvelles et ça doit en être une bouffée d'air frais au milieu de peut-être de la grisaille. Alors il faut tout de suite faire une précision ou un petit coup de zoom, un rectificatif en tout cas de ma part quand je dis que Laudato Si fait sa rentrée, que l'ICT fait sa rentrée à l'heure de Laudato Si. C'est l'ICT prend la vague et ça n'est pas propre. À cette rentrée, la correction est faite. On va quand même, avec vous, Christian Delarbe, faire un tout petit point sur l'actualité la plus chaude, aller pour rassurer tous les parents qui nous écouteraient. Vous arrivez à gérer la pandémie. Quelles sont les priorités pour un recteur comme vous en cette rentrée et face à cette difficulté ?
Eh bien, la priorité, c'est bien sûr la sécurité sanitaire de tous, mais d'assurer vraiment... un enseignement de qualité, un accompagnement de chacun. Les jeunes ont à vivre une année universitaire pleine et entière et on doit vraiment, par tous les moyens, trouver, que ce soit distanciel, que ce soit présentiel, accompagner finement chacun dans sa démarche et dans ses études au moment même où c'est un peu compliqué, finalement.
Pas d'inquiétude particulière ? Qu'est-ce qu'on...
Pas d'inquiétude particulière, sinon celle de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut être... bien sûr, il y a le virus circule, nous avons des mesures de sécurité très, très strictes, et puis un accompagnement au jour le jour. Hein, chaque jour, on refait le point, et s'il s'avère qu'il y a tel ou tel jeune qui est positif, il est mis à distance, un enseignement adapté lui est proposé. Voilà, on gère les choses le plus finement possible, de sorte qu'on puisse... assurer le maximum d'enseignements présentiels pour le plus grand nombre. Voilà, et puis,
voilà, vous faites ce qu'il faut et vous le faites, on va dire, avec tempérance. C'est ce qu'on entend.
Et puis avec vraiment l'engagement de à la fois les enseignants, des personnels et puis les étudiants qui jouent le jeu, même si le message à leur faire passer, c'est de dire c'est bien de mettre un masque en cours, mais ça serait bien que le soir, vous ne fassiez pas trop la fête. Voilà, ça, c'est le message à faire passer. Sinon, on ne va pas vraiment s'en sortir. Hein.
Alors, on va parler d'écologie dans cette émission. Avec l'écologie, on commence toujours quand même par des nouvelles qui font un petit peu froid dans le dos. Je ne vais pas vous demander où est-ce que vous êtes parti en vacances, mais j'ai cité cet élément d'information à plusieurs reprises depuis la rentrée. Ça n'a échappé à personne qu'il a fait très chaud en France. Certaines régions ont été mises en alerte rouge. On ne pouvait même plus arroser les cultures, c'est dire. À Galargues, le Montieux, les auditeurs vont finir par savoir que c'est dans le Gard, il a fait 45,9 degrés. Et à Katanga, cette fois c'est en Sibérie, le 22 mai dernier, c'était un petit peu avant l'été, il a fait 20 degrés, ce qui est évidemment très largement au-dessus des températures moyennes. Marie-Christine Monnoyer, je ne sais pas si vous avez eu chaud, vous aussi, mais qu'est-ce que ça vous inspire, cette chaleur accablante ?
Ben, d'abord, ça veut dire que, comme on n'est pas habitué, il faut trouver des solutions pour vivre malgré la chaleur, pour vivre malgré la sécheresse. Vous ne m'avez pas demandé où j'étais partie en vacances. Moi, je reste dans le Lauragais, donc vous voyez, ce n'est pas vraiment loin.
Vous avez dû avoir chaud, alors.
J'ai eu très chaud, et j'ai vu la nature souffrir. Et ça, quand vous voyez les arbres souffrir, quand vous voyez la terre qui sèche, vous ne pouvez pas être interpellé par votre comportement et ce que vous pouvez faire pour.
Même les forêts, hein, quand on se baladait en forêt, même dans les forêts, on sentait que ça craquait, ça tirait.
C'était vraiment terrible. Les feuilles étaient vraiment très, très affectées. Donc je trouve que ça, c'est un appel à la conversion.
Alors, appel à la conversion. Des appels à la conversion, c'est un peu les jeunes qui se chargent de plus en plus, on va dire, de nous sonner les cloches. Il y a Greta Thunberg, bien connue maintenant de tous, diversement appréciée. Et il y a ces 6 jeunes Portugais qui ont décidé d'attaquer 33 États, États entre autres européens, États membres de l'Union européenne. C'était une nouvelle qui est tombée le 3 septembre dernier, des Portugais qui, pour certains, ont été victimes des terribles feux qui ont ravagé le Portugal cet été. Alors, ils attaquent les États devant la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir échoué à faire leur part afin d'éviter une catastrophe climatique. Dans toutes ces actualités, Adèle Solière et Alex Assouad, est-ce que vous reconnaissez dans cette jeunesse qui commence un peu à taper du poing sur la table fortement, Adèle Solière?
Oui, totalement. Moi, personnellement, je me reconnais bien dans la deuxième, celle sur les jeunes Portugais. Parce que ça montre bien que c'est un problème qui est de plus en plus abordé, surtout par les jeunes. C'est parce que ça nous concerne directement, ça concerne aussi notre futur. Donc c'est important d'y réagir dès maintenant.
Y compris par des actions, on va dire, j'allais dire violentes, en tout cas radicales, ou en tout cas très interpellantes, comme celle-là ou comme celle de Greta Thunberg. Vous trouvez que les moyens sont adaptés ?
À mon avis, ce ne sont pas les seuls moyens. Je trouve ça très bien parce que ça montre qu'ils sont impliqués et qu'il faut vraiment réagir à ce niveau-là. Mais ça peut passer aussi par des actions banales, on va dire, du quotidien, auxquelles on ne penserait pas directement.
Alex Assouad, est-ce que vous reconnaissez dans cette génération qui monte ?
Oui, tout à fait. Mais en fait, leur action, elle inspire parce que ça se voit qu'ils sont énervés, qu'ils n'ont pas décidé de juste baisser les bras, mais au final de mettre une action aux États. Après, est-ce que ça va avoir un impact? C'est la question. C'est sûr que la vague de Greta a eu un impact, mais au final, au niveau des politiques, on n'est pas trop sûr de ce que ça va mener. Il faut pas baisser les bras. Moi, au niveau des informations, je vois beaucoup d'infos négatives. Il faut toujours essayer de voir les infos positives, voir des jeunes Portugais qui portent plainte, ça c'est une info positive, et c'est en se focalisant là-dessus et en allant de l'avant qu'on va construire un monde de demain.
Alors les infos négatives, j'en ai juste noté une ou deux autres, on va pas les égrener non plus. Y a à nouveau une étude qui vient d'être publiée, c'était le 17 septembre dernier, étude internationale qui redit que le niveau des mers risque d'augmenter de 40 cm d'ici à 2100. Et puis on aurait pu citer aussi ce rapport qui invite les Français à planter un arbre par habitant pendant 30 ans pour arriver à, on va dire, à compenser leur empreinte carbone. Une autre actualité, c'est la saison de la création et du jubilé de la Terre. Chaque année, c'est donc du 1er septembre au 4 octobre. On en a parlé à cette antenne. Alors, monsieur le recteur, vous qui êtes par ailleurs donc prêtre, j'imagine que vous étiez sensible à cela lorsque vous étiez aussi vicaire général du diocèse d'Auch. Cette saison de la création, quelle vertu a-t-elle ? On a un message du pape François qui nous invite à nous souvenir, à revenir, à nous reposer, à réparer, à se réjouir. Je vais juste citer un passage. Nous avons constamment besoin de nous rappeler que tout est lié et la protection authentique de notre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que la fidélité aux autres. C'est important ces temps, on va dire, consacrés.
Oui, parce que ça place la question sur un plan vraiment profond, un plan spirituel, je dirais, mais au sens vraiment du sens des choses, si vous voulez, du sens de l'être, du sens de ce que l'on est, du rapport au monde. Et par rapport à l'actualité précédente, si vous voulez, vous savez, les structures d'État, c'est jamais que le reflet des sociétés, hein, au bout du compte. Donc, si on veut que les États se comportent autrement, il faut que les citoyens, dans leur majorité, aient changé de point de vue. Et mettent en avant fassent des choix entre leur bien immédiat, spontané, quotidien, et puis des réalités plus profondes, un bien plus durable. Et ça, c'est une conversion spirituelle. Et pour les chrétiens, naturellement, ça passe en considérant le monde comme une réalité créée qui ne nous appartient pas, sur laquelle on n'a pas à avoir la maîtrise et dont on est redevable. Et par conséquent, on ne peut pas simplement considérer nos comportements à partir de notre seul point de vue. Voilà, donc c'est comme ça que je verrais ça. Tout ce qui peut nous aider à approfondir un plan finalement de la spiritualité chrétienne, hein, comme Laudato aussi le dit, qui était finalement ignoré, peu présent, parce que dans les siècles passés, ça allait de soi que la nature était une réalité en soi, on n'en avait pas une maîtrise. Aujourd'hui, c'est l'être humain modifie le climat. Enfin, c'était inimaginable dans les siècles passés. Donc il y a besoin, à cause de cette puissance technique, d'approfondir les questions spirituelles qui y sont liées.
Alors, on entend cette jeune génération donc, qui tape du poing sur la table. Est-ce que vous diriez, vous aussi, vous faites partie des aînés qui disent haut et fort que la situation est grave? Je le dis parce qu'en fait, c'est malgré tout pas encore une évidence. Et quand on lit, entre autres, cet extrait du pape François de Laudato aussi, de nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre émis surtout à cause de l'activité humaine, il y en a encore que ça défrise. Alors, est-ce grave, j'allais dire docteur ou monsieur le recteur, plutôt?
Oh, la situation est grave, elle est même peut-être plus grave même que ce que l'on peut penser, parce que la gravité n'est pas seulement scientifique, si vous voulez. Elle est grave déjà au plan scientifique, c'est-à-dire on sait que des équilibres qui étaient construits sur la longue durée dans notre planète, des écosystèmes, sont détruits. Et on ne rétablit pas l'équilibre d'un écosystème comme ça. Voilà, donc c'est grave. Mais ce qui est plus grave, finalement, c'est ce que je disais juste avant, c'est que tant qu'on n'a pas changé de point de vue, et c'est facile ni pour moi, ni pour nous, ni collectivement, ni individuellement, tant qu'on n'a pas profondément changé de point de vue, cette conversion, le pape François passe, on n'est pas vraiment armé pour changer quelque chose dans notre rapport à ce monde. On va chercher, voilà, ça sera toujours une lutte entre notre bien-être et le bien-être de la collectivité créée, si vous voulez.
Voilà. Marie-Christine Monnoyer, dans le message du pape François, à l'occasion de la saison de la création et donc du jubilé de la Terre, il y a entre autres un passage, un temps pour se reposer, c'est un de ses sous-chapitres. La pandémie nous a conduit à un carrefour, nous devons profiter de ce moment décisif pour mettre fin à des activités et des finalités superflues et destructrices. Il y a une expression maintenant qui a de plus en plus cours, c'est le monde d'avant et le monde d'après. Alors, est-ce que vous reconnaissez dans cette expression, est-ce que quelque part le pape François nous invite à changer de monde?
J'ai envie de dire que c'est presque évident. Ce qui est sûr, c'est que quand il le disait dans Laudato Si...
On parle aussi de changement de civilisation.
Voilà. Quand c'était dit dans Laudato Si, ou quand c'est dit aussi dans l'encyclique sur l'Amazonie, la lettre sur l'Amazonie, que j'ai lue avec un plaisir sans mélange, on a, au moment du confinement, comme notre quotidien était complètement différent, la réflexion a pris tout de suite plus de place qu'elle n'en avait avant. Parce que c'était plein de questions. Et donc, quand il y a des questions qui se posent, finalement, notre cervelle se met tout de suite en route en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, ce qui m'a frappé pendant le confinement, c'est d'abord l'extraordinaire nombre de publications qui étaient des articles de réflexion qui sont parus dans la presse sur The Conversation et sur des tas de documents qui étaient à notre disposition et qui nous conduisaient à réfléchir et à être interpellé et à vouloir interpeller.
Donc vous voulez dire qu'on se posait des questions, on avait des réflexions, on pouvait lire des réflexions, y compris dans la presse, qu'on ne lisait pas d'habitude, peut-être.
Exactement. Et ces réflexions-là, elles nous incitaient, pas uniquement à réfléchir tout seul, à réfléchir avec d'autres. Et on revient sur ce que disait le recteur il y a quelques instants. Parce qu'au fond, je sais que dans notre famille, par exemple, ou avec les gens, on s'est beaucoup téléphoné pendant ces périodes-là. Eh bien, toute génération confondue, ces thèmes était abordé. Et cela conduisait à s'interpeller. Alors certains disaient, oui, mais on dit toujours, c'est pas forcément les hommes, ou je suis pas sûre que ce soit là, à cause des hommes que les choses... Très vite, la situation changeait. Et aujourd'hui, c'est véritablement un point de base que de discuter ensemble sur ce que tout le monde peut faire évoluer dans notre organisation civilisationnelle.
Alors, monsieur le recteur, pour l'Institut catholique de Toulouse, ça n'est pas complètement de la publicité mensongère quand j'ai dit que la rentrée était sous les couleurs de Laudato aussi, mais c'est davantage un travail de fond. Donc, secret de fabrique, il y a pour l'Institut catholique de Toulouse donc, et pour les autres universités des plans campus, et c'est donc dans ce cadre que cette grande thématique traverserait tout le projet de votre établissement. Alors, expliquez-nous à grands traits ce qu'est ce plan campus et vous avez choisi, j'imagine pas tout seul, de le teinter par cette encyclique.
Oui, donc ça prend place, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le plan stratégique d'un établissement. Et depuis 2 ans, on travaille le nouveau, finalement. Il y a toujours une élaboration, donc un plan stratégique à 5 ans. C'est quelque chose dans la durée, quand même. Et de fait, parce que ces choses-là se placent dans la durée. Et je ne sais pas comment vous dire ça en 2 mots, si vous voulez, nous sommes
vous
une université.
Vous avez un peu plus que du mot, allez-y.
Oui, nous sommes une université, donc on peut aborder la question de façon de plusieurs côtés en même temps. Donc on est un lieu de recherche. Donc tout ce qui est autour de Laudato aussi, les questions de développement durable, doit transformer les thèmes de recherche. C'est le cas dans notre unité de recherche CERES. Oui. Donc ça fait partie pour les 5 ans à venir d'une ligne de fond, c'est-à-dire dans la recherche. Travailler avec les enseignants-chercheurs de l'ICT et les autres partenaires à ces thèmes de recherche. C'est la manière de transcrire dans l'enseignement auprès des étudiants, parce que recherche et enseignement dans une université, ça va de pair. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire dans chacun des cursus des étudiants de façon transversale pour aborder...
Donc toutes les facultés, pas
seulement
les
facultés. Dans toutes les facultés, voilà. C'est pas un enseignement professionnel spécifique, c'est un enseignement transversal. Comment, alors ça sera différent selon les filières ou autres, mais disons, comment on peut traduire dans l'enseignement qui est donné à nos étudiants les thématiques qu'il y a derrière Laudato aussi, des thématiques de développement durable, justement ce qu'on parlait, hein, le rapport à la création, le rapport au monde, la personne humaine dans le monde créé. Enfin, voilà, c'est toute une anthropologie, c'est toutes sortes de thèmes. Donc on a par exemple des cours de développement durable, c'est d'ailleurs Mme Monnoyer qui les donne, mais on a la faculté de lettres qui met en place un cursus transversal dans ses maquettes. Enfin voilà, un certain nombre de choses comme ça. Ensuite, l'ICT, c'est une communauté. Donc, comme une petite communauté, si vous voulez, on est une société en miniature, ou du moins on est un lieu, un expériment de la société.
Vous essayez de montrer l'exemple.
Voilà, c'est ça. Mais pas seulement de montrer l'exemple, mais d'expérimenter. Parce que montrer l'exemple, c'est très, très prétentieux. On n'arrive pas à montrer l'exemple. Mais on se confronte pour nous-mêmes, on accepte de dire nous sommes une société, nous aussi on a besoin de se convertir. Et c'est pas gagné. Hein? Donc ça veut dire, par exemple...
Quelle forme ça prend, justement?
Oui, alors il y a deux aspects en particulier. L'un, c'est de favoriser des lieux de partage d'expérience. On avait prévu la journée de l'ICT, cette année on prévoit plutôt la semaine du développement durable, c'est-à-dire qu'autour des thèmes de Laudato si et des objectifs de développement durable de l'ONU, que les étudiants, les personnels, les enseignants partagent leur engagement associatif, une sensibilisation sur tel ou tel respect, tel ou tel objectif de l'ONU. Je vous renvoie à ce que sur Internet à aller voir ce que sont ces objectifs de l'ONU, il y a tous les thèmes de Laudato si, mais aussi justement les thèmes de Laudato si, la dimension spirituelle. Donc ça, c'est ça. Et puis c'est aussi le prendre en compte dans notre immobilier, dans nos espaces, dans la manière de vivre les lieux. On a un grand débat aujourd'hui sur le parking. Est-ce qu'il doit y avoir un parking? Moi, je pense que non. Voilà. Est-ce qu'il faut mettre la clim quand il fait très chaud l'été? Est-ce qu'il faut rajouter du bio au self, mais ça va coûter plus cher? Est-ce que... Et ce sont des choses qui nous font toucher du doigt combien tout le monde est d'accord dans les idées. Ben, il faut, il va falloir l'impulsion des étudiants, il faut l'impulsion des personnels, il faut que la sensibilisation se traduise en mobilisation concrète qui accepte de faire des choix. Et finalement, l'ICT, dans la micro-société qu'elle est, s'efforce justement de former les jeunes à l'ensemble des facteurs. On cherche, on est enseigné, mais ensuite on cherche un engagement et ensuite on s'efforce de le partager et de le faire rentrer dans les pratiques. Et c'est pour ça que ça ne se fait pas en une année, en une semaine ou autre, et que c'est sur un plan stratégique.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour continuer donc de parler de Laudato aussi et de cette rentrée de l'Institut catholique de Toulouse.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'ICT à l'heure de Laudato aussi, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous écoutent, l'ICT, c'est bien sûr l'Institut catholique de Toulouse, qui rayonne largement dans notre région. Et donc même ceux qui habitent loin de Toulouse seront concernés. Autour du plateau, Marie-Christine Monoyer, professeure émérite de sciences de gestion, titulaire de la chaire Jean Rodin. Dans cet institut, Christian Delarbe, qui est prêtre et recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et Adèle Solière et Alex Assouad, qui y sont tous deux étudiants. Avant de vous donner un peu plus la parole aux deux étudiants présents, je voulais faire écho pour les auditeurs et puis pour, on va dire, vous préparer le terrain. Je le disais ce matin en teasing de l'émission, faire écho des propos récents du pape François. C'était une rencontre, donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'antenne tôt ce matin, de 16 Français. C'était une délégation qui a été emmené par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. Il y a eu une rencontre. Le pape François a laissé tomber son texte. Il est coutumier de ce genre de choses, en disant « Écoutez, le texte, vous l'avez. On va se parler en toute simplicité. » Et le pape François a témoigné que sa conversion à lui date de 2007. C'était donc à l'occasion de la fameuse réunion de l'épiscopat latino-américain au Brésil à Aparecida. Il disait « Avant, je ne comprenais rien. » Et il s'y est mis, et comment, puisque en 2015 a été publié Laudato Si. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information, Alex Assouad, Adèle Solière, est-ce que ça vous a fait sourire? Vous vous êtes dit que finalement il est comme tout le monde, le pape François, Alex Assouad?
Bah évidemment, il est humain, il est comme nous, il s'informe petit à petit, et c'est pas en naissant qu'il s'est dit la nature, il faut la protéger, il s'est rendu compte au moment où il y a eu la petite vague verte qu'il fallait commencer à agir pour la nature, et que la nature c'est un bien précieux et qu'il faut en prendre soin.
Alors il me raconte même qu'à l'occasion de cette réunion à Aparecida, il y a eu des propositions sur l'Amazonie, et il s'est dit « mais ces Brésiliens, comme ils nous embêtent avec cette Amazonie ». Voilà. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'évangélisation de l'Amazonie? Adèle Solière, est-ce que vous vous retrouvez dans ce pape qui fait du chemin petit à petit?
Oui, je pense que c'est un problème qui est de plus en plus engagé maintenant, mais ça soulève un point important, comme on l'a dit au début. Il faut voir généralement pour s'engager, parce que c'est ce qui nous touche le plus, la vue, et c'est comme ça qu'on va se rendre compte de toutes les conséquences de nos actes et à quel point c'est important de réagir.
Alors justement, on va commencer avec vous. Est-ce que vous, votre déclic, c'est justement d'avoir vu quelque chose et qu'est-ce que vous avez vu?
Alors moi, mon déclic, je ne sais pas exactement à partir de quand il est arrivé. J'ai l'impression que c'est un chemin qui s'est fait petit à petit, c'est quelque chose dans lequel j'ai toujours baigné. Mais à mon avis, les réseaux sociaux, les documentaires sur la faune et la flore, etc., ont énormément participé à cette réalisation, à cette prise en compte. Et du coup, ça m'a permis au quotidien, par des actions toutes simples, de m'engager un peu plus dans l'écologie.
Allez, on va commencer par les choses simples, c'est très bien, puisque dans le fond, il faut un moment atterrir dans cette conversion écologique. Vous êtes étudiante, on va dire une étudiante classique, hein, licence de langue étrangère appliquée, vous êtes à la Toulouse Business School, et alors on m'a dit que vous, votre spécialité quelque part, ou si vous étiez là ce matin, c'est que vous essayez de mettre en place de multiples petites choses. Alors quelles sont ces petites choses que vous essayez de vivre?
Alors, ce sont majoritairement remplacer des produits à usage unique, parce qu'on se rend compte à quel point on en utilise, et c'est ahurissant de voir tout ce qu'on jette. Donc ça peut passer...
Des exemples.
Oui, des cotons démaquillants, qui suffit de prendre... même on peut en fabriquer, mais on peut en acheter aussi, il suffit de les laver après, et de les sécher, enfin, ils sèchent tout seuls, et on les réutilise...
Vous n'en êtes pas aux couches lavables, mais vous verrez, ça viendra un jour. Non, mais... les cotons démaquillants, allez-y, continuez.
Oui, ensuite, évidemment, la gourde, mais ça, je pense que...
Alors, redites-le, parce que tout le monde n'est pas au courant encore.
Oui, oui, de plus en plus, même moi, je le vois dans les classes, la plupart des gens ont leur gourde avec eux.
Ça évite d'acheter une bouteille en plastique.
Exactement. Voilà. Ça passe aussi par des sacs à vrac, pour éviter d'utiliser les sacs plastiques dans les magasins, pour se servir.
Donc on arrive avec son cabas, comme les grands-mères, c'est ça?
Oui, voilà. Toujours avec des poches. Oui. Et plein de petits sacs comme ça. Également, pour remplacer les films transparents qu'on utilise pour mettre des choses au frais après les avoir mangées quand il y a des restes. C'est des espèces de charlottes, parfois en cire, qui sont très pratiques. Elles permettent de s'adapter à toutes les formes, un peu toutes les tailles. Donc c'est très...
Est-ce que vous en êtes aussi aux produits d'entretien? J'imagine qu'un étudiant fait le ménage chez lui.
Alors moi, j'habite encore chez mes parents.
Oui. Donc c'est maman qui fait le ménage, bravo.
Je ne m'occupe pas trop de ça, mais je sais qu'il y a du vinaigre blanc chez moi, qu'ils utilisent beaucoup, mes parents. Mais après, pour l'instant, on est encore sur...
Alors que la conversion petit écologique, pour vous, donc, c'est tout simplement une attention au quotidien à de multiples petits gestes. Mmh. Ça vous semble, on va dire... il faut commencer par ça,
voilà,
selon vous?
Je pense pas que ce soit la finalité, mais en tout cas, il faut commencer par là. C'est des actions que tout le monde peut faire au quotidien. Et c'est déjà se mettre dans un état d'esprit positif. Parce que même pendant le confinement et après, toutes les nouvelles sont négatives. Ça stresse les gens, ça les met dans des mauvais états d'esprit. Et ça ne les incite pas à s'engager pour protéger l'environnement ou quoi que ce soit. Donc il faut être dans un état d'esprit positif.
Alors justement, quels sont les fruits? Et après, on donnera la parole à Alex Assouad. Quand vous faites ces petits pas, les uns derrière les autres, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Le père Christian Delarbre disait que dans le fond, c'était un... On va dire, si on utilise le mot conversion pour reprendre les termes de Laudate aussi, c'est que dans le fond, il y a quelque chose de spirituel. Vous sentez quoi?
Alors, je sens une espèce de satisfaction, déjà, je dirais. Et je me sens beaucoup mieux quand j'utilise des produits comme ça que je sais que je peux réutiliser et pas que je jette à l'infini. C'est... Parce que ça me met vraiment en colère de jeter autant de choses.
Alex Assouad, vous, donc, vous êtes aussi étudiant. Et alors, avec un frère, vous avez donc créé une association qui s'appelle Récup Occitanie. Si on commence par la conversion, puisque maintenant, on va demander aux gens quand est-ce qu'ils se sont convertis à l'écologie, vous diriez quoi? Ça s'est fait progressivement? Est-ce que vous avez eu aussi un électrochoc?
Alors,
est-ce que vous avez eu un électrochoc, pardon?
Je dirais que ça s'est fait petit à petit, parce que en fait, depuis que j'ai 5 ans, je suis chez les scouts. Et en fait, en étant chez les scouts, on vit un peu avec la nature et on se rend compte du bien qu'on a autour de nous. Et puis, on a des ateliers qui nous apprennent à respecter la nature. Des fois aussi, on nous apprend à faire du dentifrice nous-mêmes, parce qu'on sait que il faut commencer à être débrouillard et pas cracher sur la nature.
C'est pas facile, hein, faire le dentifrice soi-même.
Ah non, oh, ça va.
J'en sais quelque chose, c'est pas l'étape la plus grave.
Non, c'est
la plus
pas...
facile. Allez-y, continuez.
Ça réussit pas tout le temps. Et donc oui, c'est avec les scouts qu'on vit avec la nature et qu'on se rend compte qu'il faut la respecter directement. Et ensuite, le gros point de ma transition, c'est quand mon frère a commencé à s'engager à Bordeaux quand il était étudiant et qu'il avait pas de compost chez lui. Et comme on a toujours vécu dans une maison avec un gros compost dans le jardin, il s'est dit « je gâche toute la nourriture, tous les restes, il faut que je les jette à la poubelle parce qu'il n'y a pas de compost dans les appartements. » Et donc c'est là qu'il a lancé Récup, donc une solution de compost en appartement.
Alors justement, Maurice, expliquez-nous, donc vous êtes co-créateur avec votre frère, de cette association. Qu'est-ce que c'est que Récup Occitanie?
Donc Récup Occitanie, c'est en fait donc une association qui propose à nos adhérents un système de compost bokashi. Donc c'est en fait avec de la matière organique fermentée. Et vous mettez vos déchets dans un seau qu'on vous met à disposition, il n'y a aucune odeur, ça ne pue pas. Vous mettez sur vos déchets du son de blé enrichi aux matières organiques, et ça va permettre à vos déchets, le temps que vous remplissiez le seau, de fermenter directement, donc ça va accélérer le processus. Et une fois qu'il est rempli, on vient le chercher à vélo chez vous, parce que comme en appartement vous n'avez pas de jardin, vous n'avez pas d'endroit où mettre le compost. Donc on vient prendre votre compost, et on va le donner à des maraîchers, qui vont du coup enrichir leur terre et pouvoir cultiver dessus. Et donc c'est vraiment un cercle vertueux, et on va aussi essayer du coup de permettre à nos maraîchers de vendre à nos adhérents. Donc, nos adhérents, ils pourront mettre leurs déchets dans le seau. Et ensuite, ils pourront manger leurs tomates qu'ils ont poussées sur leurs déchets.
Donc, c'est un compost pour les particuliers.
Voilà.
Où vous ajoutez quelque chose
un
qui fait
blé,
oui. Que ça ne sent pas mauvais sur le balcon, c'est ça?
Oui.
Et après, donc, il y a un système, on va dire, de circuit court.
C'est ça.
Où on finit aussi par consommer localement.
Voilà. C'est vraiment, on essaye de à chaque étape, que ça soit maximum rentabilisé.
Alors, même question, qu'est-ce que ça provoque? On entend de la satisfaction, vous irez jusqu'à dire que ça vous met dans la joie, on dit que c'est un des fruits de l'esprit, non? La joie, quels sont les fruits que vous goûtez à essayer de vous engager comme ça?
C'est une petite fierté au quotidien de se dire que on fait toujours notre mieux. C'est toujours intéressant de se lever, de se dire aujourd'hui, si j'ai pas agi pour l'environnement, je peux pas bien dormir, alors que maintenant c'est vraiment au quotidien. Je sais que j'apporte ma pierre à l'édifice, même si elle est toute petite et qu'elle va pas sauver le monde. Je sais que je serai heureux. C'est la petite sobriété heureuse, voilà.
Sobriété heureuse, voilà. Ça vient pas tout à fait de vous, hein, mais l'expression a été reprise par. Ça vient du pape François qui lui-même l'a repris de Pierre Rabhi. Marie-Christine Monnoyer, vous qui chapeautez entre autres ces étudiants, qu'est-ce que ça vous inspire, ces interventions?
Alors, j'ai envie de dire deux choses. Ce qui est frappant, c'est que chez les jeunes qui viennent de s'exprimer, ils nous ont dit que c'était au fond très régulier, depuis de nombreuses années. Moi, je sais que j'ai eu un choc véritablement électronique le jour où, à l'occasion d'une des réunions des Semaines sociales de France, j'ai entendu un des grands spécialistes de la lutte contre le réchauffement climatique. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, c'est plus possible, on change. Et on a installé évidemment du compost, on a installé des panneaux solaires, on a changé la chaudière, etc., etc. Donc tout ça, ça faisait beaucoup, beaucoup d'argent et beaucoup de discussions. Et je me suis dit, ce que je travaillais en matière économique sur la responsabilité sociale de l'entreprise, il faut que je creuse davantage, il faut que je fasse davantage de cours, il faut que je fasse davantage de papiers sur ce sujet. Et donc, au fond, il y a eu la volonté de transmettre aussi, puisque c'est ça mon métier d'être prof, de transmettre aussi, au fond, les conséquences de ce choc que moi j'avais reçu à l'occasion d'une réunion. Et je dois dire que c'est un formidable moteur dans le quotidien. Parce qu'au fond, ils ont insisté tout à l'heure...
Vous pouvez peut-être préciser une chose, c'est que ça n'est pas seulement une attention à la nature, c'est aussi une attention aux personnes et aux plus pauvres. C'est
évidemment
peut-être quelque chose qu'on n'a pas complètement entendu.
Et puis surtout, c'est aussi transgénérationnel. C'est-à-dire ce que moi je peux comprendre parce que j'ai lu des tas de machins, eh bien je peux aussi mieux l'expliquer aux autres et je peux... et à tous les autres, à mes étudiants et à tout l'environnement en parlant de personnes. Ça, c'est... Alors, on n'a pas dit le mot tout à l'heure, mais en fait, on se sent un colibri. Et un colibri, c'est un animal, c'est un oiseau qui est très symbolique du bonheur, par son chant, par ses... Et cette action-là, ce travail-là, c'est véritablement... Une force extrêmement grande pour le quotidien. Et donc, en fait, ça ne s'arrête jamais.
Je ne sais pas si c'est l'avantage du colibri, parce qu'il essaye d'éteindre cet incendie avec une goutte
avec
d'eau. C'est vrai que ça ne s'arrête jamais, parce que l'incendie est quand même gros. Bref, je m'en mêle les pinceaux. Allez, on va faire une deuxième pause, et puis on va vous retrouver pour essayer de vous entendre un peu sur ce monde d'après. On va reparler de Laudate aussi. Il est toujours bon d'en parler et d'en reparler. On va s'arrêter sur quelques points, et je vous demanderai à quoi on peut essayer de ressembler ce monde qu'on essaye de faire advenir. Thank you.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'Institut catholique de Toulouse, l'ICT, à l'heure de Laudato aussi, c'est pour rappel pour ceux qui nous rejoindraient le thème de l'émission de ce matin autour du plateau Marie-Christine Monnoyer, qui est titulaire de la chaire Jean Rodin dans cet institut, Christian Delarbe, qui est prêtre et recteur de l'Institut catholique de Toulouse, et Adèle Solière et Alex Assouad, qui sont tous deux étudiants. Je voulais, en cette fin d'émission, reciter un petit peu Laudato aussi. Et essayer peut-être de mettre en perspective ou de vous entendre sur ce monde d'après. Alors il y a une expression forte qui existe dans Laudato si, du pape François, qui n'est pas du goût de tous, et parfois de gens, on va dire, très bien informés, et surtout pas rétifs, on va dire, au mouvement que dessine Laudato si, c'est le terme de décroissance. L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Marie-Christine Monnoyer, vous qui êtes professeure émérite de sciences de gestion, qu'est-ce que ça vous inspire, ce terme décroissance? Qu'est-ce que le pape François nous indique comme horizon?
Alors le terme de décroissance pour un économiste, c'est très très difficile à manipuler. Parce que d'abord, dans un pays comme le nôtre, si je peux parler de décroissance pour une partie de la population, je vais avoir beaucoup de mal à parler de décroissance pour une autre partie de la population. Donc, ce que veut dire le pape, je crois, c'est qu'au fond, il exprime aussi beaucoup une question de solidarité. Et cette solidarité, elle est valable aussi bien dans les pays, elle est à mettre en œuvre aussi bien dans les pays développés que dans les pays moins développés. Et on peut penser que l'amélioration de la solidarité dans les pays riches a eu un impact sur l'amélioration de la vie dans les pays moins riches. Mais on ne peut pas tout casser, parce que si comme le mettent en évidence les résultats des pactes de l'ONU...
Expliquez-nous peut-être la chaîne quand même, parce que ça, c'est une évidence, mais ce lien entre chez nous et là-bas, on va dire, c'est...
Et le lien entre chez nous et là-bas, il est très compliqué. Une grande partie des gens qui avaient des revenus très faibles sur la planète se sont améliorés au cours des 20 dernières années, c'est grâce à la mondialisation. C'est parce que les usines ont délocalisé que des personnes en Chine, en Afrique, au Vietnam, etc., ont pu travailler.
Et en même temps, il y a 1 milliard de personnes qui vivent dans des bidonvilles aux quatre coins de la planète.
Donc absolument. Mais c'est pour ça que c'est très très compliqué. Et si on dit on relocalise, ça veut dire beaucoup de choses pour ces pays-là. Donc au fond, il me semble que ce qui est fort, c'est la question de la solidarité. La solidarité des pays riches vis-à-vis des pays pauvres, et il n'y a pas d'écologie sans solidarité. Il n'y a pas d'écologie sans lien entre l'attention de ceux qui ont le moins à consommer, le moins d'argent ou qui consomment le moins. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, ce n'est pas en décrétant, in my opinion, ce n'est pas en décrétant la décroissance des pays riches que l'on va améliorer la situation des pays pauvres. C'est en changeant notre façon d'imaginer la solidarité entre riches et pauvres, en interne et en externe, si je parle de tel ou tel pays.
Alors il y a une autre critique derrière dans Laudato aussi. Ça, on va dire, vous allez me dire que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est cette critique du consumérisme. Ça dessine aussi un autre monde, puisque on a quand même des vies qui tournent beaucoup autour de cette réalité. Le pape François lui élargit aussi, on va dire, la réflexion sur cette critique du consumérisme. Quand on ne reconnaît pas la valeur d'un pauvre, d'un embryon humain, d'une personne vivant en situation de handicap, on écoutera difficilement les cris de la nature elle-même, le pape François ayant dans le viseur une certaine culture du relativisme. Est-ce qu'il faut, vous disiez, Christian Delarbe, que cette conversion, elle a une racine spirituelle, et on a entendu, spirituelle, pas forcément chrétienne, est-ce à dire aussi que cette critique d'un certain modèle libéral, ça passe par une prise de conscience aussi de la culture relativiste dans laquelle on est?
Oui, c'est-à-dire surtout, c'est que tout ça est lié, hein, et il faut pas, c'est, ça date pas du pape François. Moi, mes convictions là-dessus datent de mes lectures autrefois de Jacques Ellul, le grand philosophe théologien protestant de Bordeaux, et de Lanza del Vasto, grand propagateur de la non-violence, dans les années 70. Et dans les années 60-70, ces auteurs faisaient un diagnostic sur notre monde qui, aujourd'hui, 60 ans après, 50 ou 60 ans après, montre toute sa pertinence. Mais il faisait un double diagnostic, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'en réalité, toute la question technique, puis c'est toute la fascination technique procède d'une source spirituelle, l'être humain veut maîtriser son destin. Il veut pas avoir froid l'hiver, il veut pas avoir chaud l'été, il veut voir clair la nuit, il veut maîtriser sa naissance, il veut maîtriser sa mort, il veut maîtriser entre les deux, il veut savoir, il veut maîtriser. Et finalement, toutes ces questions de consumérisme, de technique...
Ce qui est en partie compréhensible.
Tout à fait. C'est très et c'est bien ça qui rend la chose compliquée. C'est-à-dire que la racine spirituelle de la chose, c'est d'accepter de ne pas être maître.
Pas complètement.
Voilà. Et jusqu'où va pas complètement. Et voilà, bon, ce serait long de... Enfin, en tout cas, c'est un grand thème, hein, de vous voyez bien, philosophie, qu'on ouvre là quelque chose qui a une réflexion vraiment de fond et qu'on trouve chez ces auteurs depuis très longtemps, qui marque ici la racine de ce qu'est une civilisation, en fait.
Pourquoi ?
Ben parce que la civilisation, la construire, une ville, c'est ça. La ville a été construite par l'être humain il y a déjà bien longtemps pour se garder des bêtes sauvages, des ennemis, pour mettre à l'abri des greniers pour pas avoir faim, et pour maîtriser son environnement. Et ça. Donc il y a quelque chose de très profond. Je dirais qu'aujourd'hui, dans la lettre sur l'Amazonie, on redécouvre ce que sont les cultures premières. Ce sont des cultures humaines qui sont restées stables pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'ils rencontrent d'ailleurs nos civilisations. Et nous sommes dans une civilisation nous avons une culture humaine, ce qu'on appelle la civilisation, sous un tout autre mode. Et toutes les questions, excusez-moi, je m'égare peut-être ou je vous perds, mais toutes ces questions, on retrouve derrière toutes les questions écologiques, les questions donc environnementales, mais l'environnement au sens aussi de l'environnement humain, les questions économiques. La racine de tout cela, hein, c'est effectivement la volonté de l'être humain de maîtriser les choses. Et jusqu'où doit-on accepter cette volonté qui est un hubris aussi, qui est un orgueil, hein.
Et alors justement, si on réfléchit au monde d'après, je ne vous demande pas un développement là, forcément trop long, mais ça
oui,
veut dire que ce changement de civilisation, ça serait quoi? Ça serait apprendre à moins maîtriser? Ça dessinerait une civilisation qui apprend à se recevoir davantage, comme ces civilisations primitives que vous citez?
Oui, certainement, oui. Oui, alors les auteurs comme Lanza ou Jacques Ellul sont très pessimistes, hein. Ils estiment que ça fait partie de la racine de l'être humain et que donc on s'en sort pas. Donc c'est pas des auteurs, c'est-à-dire qu'il faut s'engager au quotidien, c'est des gens très engagés, hein. C'est-à-dire tu fais ce qui est bien parce que c'est bien, hein, pas parce que ça va changer le monde. Voilà. Hein, et ça c'est tu le fais, voilà, ça c'est une autre approche de l'engagement. Tu le fais parce que ça c'est bien. Parce que c'est bien d'économiser, c'est bien de pas gâcher, c'est bien en soi. Mais crois pas que tu vas changer le monde. Ça, c'est la posture de Jacques Ellul et de Lanza del Vasto, si vous voulez. Donc et ça nous pose de vraies questions sur la pertinence de l'action collective. Et nous sommes tous à vouloir une action collective. Voilà. Donc je crois que ça nous rend modestes, ça rend humbles. Ça dit que néanmoins, toute action collective va devoir accepter de reconnaître des limites. Et ça, c'est un acte spirituel, voilà, qui a des conséquences matérielles, pratiques, très concrètes. On reconnaît qu'on a des limites.
J'aimerais qu'on finisse cette émission en faisant écho. C'est aussi l'intérêt de ces émissions où on parle, on va dire, de la vie de l'Église à petite échelle en s'inspirant de la grande. Le 12 septembre dernier, le pape François a reçu en audience les membres des communautés Laudato Si. Il y a maintenant des communautés Laudato Si qui essayent donc de vivre dans les pas de cette encyclique. Et alors, il a utilisé deux termes comme deux mots-clés de cette transition, de cette conversion, la compassion et la contemplation. La contemplation et la compassion, on peut dire, laissant entendre qu'il faut d'abord s'émerveiller devant le monde créé et que naturellement derrière, on serait conduit à la compassion. Qu'est-ce que vous avez entendu, Marie-Christine Monnoyer, dans ce propos que je recite mal, mais je vais chercher la citation pendant que vous commencez de répondre.
Moi, ce que j'ai entendu, c'est au fond ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette période aussi originale qu'a été le confinement et même maintenant la situation que nous vivons, nous conduit à regarder ce qui nous entoure, à contempler ce qui nous entoure et à le regarder avec un autre œil, à la fois un œil admiratif et un œil attristé à chaque fois qu'il y a quelque chose que nous contemplons qui ne devrait pas être comme il est. Quand on regarde en ce moment, si vous vous promenez dans une forêt de châtaigniers en ce moment, vous avez extrêmement mal au cœur parce qu'il y a un problème considérable sur ce type d'arbre. Eh bien, alors, vous voyez, on est tout de suite en compassion. Alors, je ne vais pas dire qu'on est en compassion par rapport aux châtaigniers, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça veut dire aussi qu'on se rend compte que ce qui ne peut s'exprimer, et le châtaignier jusqu'à présent il parle pas, eh bien, il faut que nous le regardions autrement. C'est vrai pour celui qui souffre, c'est vrai pour celui qui est malade, c'est vrai pour celui qui est dans une grande pauvreté, c'est vrai pour l'immigré, c'est vrai pour l'étudiant étranger que j'ai accueilli la semaine dernière. Et tous ces éléments-là, c'est à la fois parce qu'il y a contemplation que la compassion naît.
Je cite donc le pape François, « Revenir à la contemplation pour ne pas être distrait par mille choses inutiles, dit-il, c'est l'antidote au choix hâtif, superficiel et peu concluant. » Et puis un petit peu plus loin, « La compassion est le fruit de la contemplation, c'est le fait de créer un nouveau lien avec l'autre, de le prendre en charge comme le bon samaritain qui, poussé par la compassion, prend soin du malheureux qu'il ne connaît même pas. » Et évidemment, on pourrait y ajouter la création. Et ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église. Il faut dire que cette émission remplace un petit peu ou devait être au milieu du forum des associations de l'Institut catholique de Toulouse qui devait être teinté par cette encyclique Laudato si, mais les contraintes sanitaires font que c'est une émission de radio, mais au moins ça donne quelques pistes et un petit peu d'air. Et puis vous avez pu enlever vos masques, voilà, ça vous fait une petite récréation. Merci à tous d'être venus pour cette émission. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h, vous la retrouvez en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.